France Inter.
Aujourd'hui, la robustesse, une bonne résolution pour la nouvelle année, racontée par
Olivier Amand, chercheur biologiste à l'INRAE.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Que trouve-t-on dans les réseaux des écosystèmes, les réseaux de neurones ou les réseaux génétiques? De façon massive et prévalente, de l'hétérogénéité, des processus aléatoires, des lenteurs, des délais, des redondances, des incohérences, des erreurs et de l'inachèvement. Le vivant héberge surtout une myriade de contre-performances à toutes les échelles, de la molécule à l'écosystème. Pensez à la photosynthèse qui permet de convertir le CO2 en fibres de carbone pour construire les plantes et nourrir la quasi-totalité des écosystèmes terrestres. Ce processus, qui est apparu il y a 3,8 milliards d'années, affiche un rendement en général inférieur à 1%. Dit autrement, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. On est bien loin des panneaux solaires et de leur rendement autour de 15%. Aucune trace d'optimisation en 3,8 milliards d'années. Voilà qui devrait nous interroger. Aujourd'hui, nous savons que ce gaspillage est absolument nécessaire à la photosynthèse pour gérer les fluctuations lumineuses et biologiques. Finalement, les êtres vivants ne sont pas sélectionnés sur leur niveau de performance, ils sont d'abord sélectionnés sur leur niveau de robustesse, c'est-à-dire la capacité à se maintenir stable sur le court terme et viable sur le long terme, malgré les fluctuations. Dit autrement, vivre, c'est d'abord résister. Les êtres vivants ont développé des marges de manœuvre très importantes pour ne pas tomber en réponse au caractère fondamentalement imprévisible de leur milieu. Il s'agit de viser ni le maximum, ni même l'optimum, mais d'être sous-optimal pour pouvoir parer aux aléas. La robustesse ouvre les possibles en multipliant les options. Elle crée des chemins alternatifs dans un environnement imprévisible. Comme pour l'opposition entre adaptation et adaptabilité, il est physiquement impossible d'être à la fois très performant et très robuste. Une fois cette donnée prise en compte, c'est donc à nous de choisir comment habiter le monde, sinon c'est le monde qui le fera pour nous. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Olivier Amand.
Bonjour.
C'est vous l'homme robuste de ce début d'année que nous souhaitions inviter pour partir du bon pied en 2026. Le texte que je viens de lire est extrait d'un petit tract Gallimard intitulé « Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant ». Vous l'avez publié en 2023 et ça s'inscrit dans une réflexion que vous menez maintenant depuis plusieurs années sur les vertus de la robustesse dans le monde vivant. Est-ce que justement vous accompagnez vos vœux toujours de souhaits de robustesse?
On peut faire des vœux de santé commune. La santé commune, c'est finalement la robustesse dépliée, parce que c'est de la santé qui n'est pas seulement de la santé humaine, mais de la santé sociale, santé des milieux naturels, et donc de la robustesse à tous les étages.
Ouais. Et ça fait combien de temps que vous réfléchissez à cette question maintenant?
Alors, la robustesse, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec les collègues depuis des années. Reski Boudaoud, Yann Trass, Yves Couder, enfin plein de gens. Dorothée Kefuska, compagnie.
Vous, en tant que biologiste?
En tant que biologiste, voilà, ouais. Exactement. Adrienne Roder, enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste. Mais ça, c'est donc depuis les années 2009-2010, quoi, dans ces années-là. Et c'est plutôt vers 2015, que j'ai commencé à explorer la question ailleurs, dans le monde social, parce que je me suis rendu compte que il y avait un... Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est des artistes qui me l'ont dit.
Ah oui.
C'était une conférence à Berlin sur l'anthropocène, et c'est des artistes qui m'ont dit « Mais tu sais que ton sujet de recherche et ton éco-anxiété, ça se parle quand même. » Et j'avais pas vu, en fait.
D'où l'intérêt de croiser les disciplines aussi. Hein.
Bien sûr, c'est essentiel. En fait, c'est dans l'interstice qu'on trouve la créativité.
Dans un autre ouvrage que vous avez publié en 2024 chez Odile Jacob et qui s'appelle « De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse », vous citez en préambule de ce livre le diplomate britannique Rory Stewart, « Le prince des marais », c'est ce qu'il a écrit comme livre, dans lequel il évoque, ce diplomate, les multiples écueils de l'occupation anglo-américaine de l'Irak en 2003, après la chute du dictateur Saddam Hussein. Alors évidemment... À la lumière de l'actualité en ce moment au Venezuela et avec les États-Unis, ce texte prend une tournure très intéressante. Quelle est la morale de l'histoire, alors?
Alors, la morale
si
de l'histoire...
Si on la plaque comme ça sur la géopolitique...
Oui, c'est assez incroyable, parce qu'en fait, ce que raconte Rory Stewart, c'est qu'en fait, les Anglais et les Américains qui veulent tout contrôler, tout maîtriser, vont plutôt générer de l'insécurité. lorsque les citoyens ne sont pas émancipés, ils sont toujours sous tutelle, et ça va plutôt alimenter les mafias, les tribus, etc. Mm-hmm. Du côté italien, par contre, les Italiens, eux, restent dans leur caserne. Ils ne vont pas du tout dans la maîtrise. Ils sont plutôt des écoles qui restent à leur place. Quoi. Et ben, c'est des zones qui ont été beaucoup plus pacifiées.
Donc en Irak.
En Irak.
C'est ce qui s'est passé sur...
Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est une petite leçon, hein, mais c'est clairement de la sous-optimalité, parce que là, on ne cherche pas la performance, mais par contre, c'est plus robuste. Enfin, je devrais dire, et donc, c'est plus robuste dans la durée.
Et ce qui est décrit, c'est l'impuissance face à la complexité, justement, c'est ça ?
Oui, alors, en fait, on est impuissant quand on utilise la performance, parce que la performance, c'est une façon réductionniste de résoudre les problèmes. En fait, on veut résoudre les problèmes au lieu de les faire disparaître, si je joue un peu sur la sémantique.
Il faudrait envoyer vos ouvrages à Donald Trump.
Alors, je suis pas sûr qu'il les lise.
Si tant est qu'il les lise.
Mais
ça pourrait l'inspirer, en fait.
En fait, c'est pas tellement mes ouvrages, mais c'est le monde fluctuant qui nous inspire. Ouais. Le monde fluctuant devient de plus en plus fluctuant. Ça, c'est ce que disent tous les scientifiques, ce que nous dit aussi la géopolitique. Enfin, on s'est un peu enferré dans ce culte de la performance qui fait tout craquer. Hein. C'est un monde suroptimisé qui devient très fragile, très fluctuant. Et c'est pour ça, à mon avis, que la robustesse devient un sujet pertinent.
Quoi. Et l'adaptabilité. Alors,
et l'adaptabilité qui va avec.
De ce monde fluctuant, plus que l'adaptation. Hein. On expliquera les nuances tout à l'heure avec vous. Est-ce que l'incohérence, d'ailleurs, comme la robustesse, ça peut devenir un objet politique mobilisable aujourd'hui?
Oui, bien sûr, le dialogue. Ouais. Le dialogue, c'est faire chanter les incohérences, en fait. C'est les désaccords féconds de Patrick Vivray. Donc on en est loin, hein, je suis d'accord.
Ah oui, mais non, en ce moment, c'est compliqué d'entendre justement les incohérences. Hein.
Alors que pourtant, une convention citoyenne sur le climat, par exemple, c'est 150 personnes tirées au sort, avec dedans des négationnistes du climat, mais en fait, à la fin, ça produit des propositions plus ambitieuses.
Oui. Donc ça sauf qu'on n'en tient pas compte.
Ah, bien sûr, alors, parce qu'on est encore dans le culte de la performance. Mais par contre, ça a fait une preuve de principe, ça a essaimé les conventions des entreprises pour le climat, les conventions territoriales pour le climat, donc il y a eu plein de choses.
Ouais. Alors ce que vous montrez, pour quand même expliquer ce qu'est la robustesse, hein, c'est que dans la nature, des valeurs jugées contre-performantes, hein, comme la lenteur par exemple, l'aléatoire ou l'inachèvement, on citait la photosynthèse tout à l'heure, animent en réalité les êtres vivants pour construire précisément leur adaptabilité à ces fluctuations de l'environnement. Hein.
Ouais, c'est les marges de manœuvre. C'est ce que disait Michel Serres quand il parlait du jeu dans les rouages. Le jeu, c'est ça en fait, c'est surtout du jeu dans les rouages pour avoir des marges. Donc en fait, quand on a des redondances, par exemple, ça va avoir un coût, il y a plus de choses à faire en parallèle. Donc c'est y compris pour les êtres vivants, hein, c'est plus de choses à régler, mais ça donne plus de pistes. Plus de cordes à son arc. Voilà, on ne met pas tous ses yeux dans le même panier. Enfin, il y a plein de proverbes qui le disent. Hein. C'est juste qu'on l'a oublié, tout simplement. Hein. On s'est laissé embrigader dans une doctrine de la performance,
un culte. Et puis, ce n'est pas que des proverbes, parce que c'est aussi observé scientifiquement.
Hein. Bien sûr. Alors, c'est des proverbes
encore,
qui ne viennent pas de nulle part.
C'est la science qui parle, quand même.
Bien sûr. C'est situé. En fait, moi, j'utilise le vivant parce que c'est une très belle incarnation du compromis entre performance et robustesse. Comme vous l'avez dit, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, les sociétés humaines, on est performants avant d'être robustes. C'est pour ça que ça craque de tous les côtés. Mais cette histoire de compromis performance-robustesse, c'est pas une exclusivité du vivant. C'est vrai pour tous les systèmes. Si j'étais un linguiste, je dirais là, à ce micro, que le langage est robuste avant d'être performant. Parce qu'un langage très performant empêcherait le dialogue. Donc il n'y aurait plus d'incompréhension et donc il n'y aurait plus de langage.
Et l'exemple de la photosynthèse, alors, Olivier Hamon, tout à l'heure, puisque je citais votre texte, pourquoi est-ce que c'est intéressant, justement, pour parler de robustesse ?
Oui, c'est fondateur. Hein, donc, en effet, la photosynthèse, c'est notre
origine,
lien au soleil,
hein.
Voilà, c'est depuis très longtemps. Mais c'est aussi... ce qu'il y a de chouette dans la photosynthèse, c'est qu'il y a plein de... Enfin, c'est très riche, donc il ne faut pas que je me parle dans toutes les directions. Mais il y a beaucoup de redondances. Il y a une enzyme qui est incohérente, la Rubisco, qui va fixer du carbone, mais aussi de l'oxygène. Enfin, c'est quand même le bazar complet. Mais ce que ça permet surtout, cette photosynthèse qui n'est pas du tout performante, ou très peu performante, c'est de vivre avec les fluctuations pour les plantes. Notamment, ce qu'on voit, c'est que les plantes sont vertes. Elles ne sont pas noires comme des panneaux solaires. Donc déjà, elles n'ont pas la bonne couleur. Hein. Si on voulait avoir le maximum de performance, on aurait faire des plantes noires.
Ah bon ?
Et oui, parce qu'elles absorberaient toute la lumière du soleil. Si elles sont vertes, ça veut dire qu'elles absorbent le rouge et le bleu de l'arc-en-ciel, et elles reflètent le vert. Et c'est pour ça qu'elles nous apparaissent en vert pour nous. Donc ça veut dire qu'elles gâchent énormément de ressources énergétiques juste à l'accueil, hein, j'ai envie de dire. Mais ça leur permet de vivre avec des pics de luminosité très élevés, des grandes variations dans la journée, dans l'année. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'elles prennent ce tampon énorme.
Et vous dites qu'il y a un gaspillage qui est absolument nécessaire.
Voilà, alors le gaspillage, c'est vrai que c'est très négatif. Comme mot.
Bien sûr.
Mais c'est juste une façon de se... On peut le dire différemment. C'est que la circularité, c'est se placer dans les conditions où le gaspillage n'est pas un problème. Parce qu'en fait, tout est recyclé. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde vivant. Hein. Tout est, ouais. Tout est le temps recyclé en permanence.
Et donc, le vivant n'est pas performant.
Le vivant, alors, il y a des moments de performance.
On peut quand même.
Il y a quand même des moments, voilà. Il y a quand même des moments. Bah, le moment de la chasse, par exemple, c'est l'exemple que je prends tout le temps, mais la lionne qui va se choper la gazelle, elle va prendre le chemin le plus court. Hein. Ça sera une ligne droite. Donc, ça, c'est de la performance.
Pour économiser l'énergie.
Voilà, exactement. Et puis aussi, parce qu'il y a une cible, il y a un objectif à atteindre.
Ouais.
Mais la lionne ne va pas passer sa journée à chasser des gazelles. Elle dort. Hein. Les lions, ils dorment entre 16 et 20 heures tous les jours. Encore un cas de sous-optimalité criant, quoi, si je puis dire. Et puis quand elles se réveillent, les lionnes, elles ne vont pas que chasser. Et quand elles chassent, le peu de temps, les quelques secondes, hein, ou minutes quoi, où elles vont chasser, bah, en fait, 95% du temps, elles ratent. Donc même dans les moments de chasse, de performance, elles ne sont pas performantes.
Ouais. Et ça, c'est une loi générale pour le fonctionnement du vivant, la robustesse ou pas ?
Alors c'est le compromis performance-robustesse, ça il est universel, ouais. C'est plus la dose qui va changer. Donc en fait, c'est souvent quand on est un être vivant dans une niche écologique très riche en ressources, on va aller plus dans la performance. Donc c'est le parasite. Alors, inutile de dire qu'il y a des échos énormes avec l'actualité, parce que les ressources appellent le parasite. Mais donc ça, c'est les cas, je ne vais pas dire que c'est pas anecdotique, hein, il y en a beaucoup, mais c'est très rare d'avoir sur Terre des niches écologiques avec beaucoup de ressources et un monde stable.
Ouais.
Donc le cas général, c'est des écosystèmes avec des pénuries chroniques de ressources et des fluctuations. Et dans ces mondes-là, alors là, on fait plutôt de la symbiose, et donc là, c'est sous-optimal de la robustesse avant de la performance.
Parlez-nous des fleurs, Olivier Hamon, parce que je crois que ça vient des fleurs, de vos observations des fleurs, hein, cette histoire de robustesse.
Oui, en fait, on avait travaillé sur une question toute simple, hein, c'est comment une fleur parvient à garder sa forme, toujours la même forme, alors qu'elle vit dans un environnement fluctuant, qu'elle-même, en interne, ça fluctue. Donc, comment fait-elle pour maintenir des fleurs qui se ressemblent ? Alors, souvent, on parle le programme génétique. On va dire c'est le programme génétique qui explique ça. Alors, c'est vrai en partie. Je questionne le mot programme, parce qu'il n'y a pas de programmateur, hein, donc il n'y a pas vraiment de programme, mais il y a des gènes. Donc, il y a un réseau de gènes. Mais si on regarde bien une fleur, si on regarde à l'échelle cellulaire, chaque fleur est unique.
C'est ça, alors qu'on a l'impression qu'elles se ressemblent toutes.
Voilà, hein. c'est une impression. Mmh. En fait, c'est pas une armoire IKEA, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui suit la notice IKEA pour dire, voilà, on va faire toujours la même armoire. Quand on regarde une fleur, c'est comme un flocon de neige, ils sont tous uniques. Donc comment font ces fleurs pour être uniques, divers et quand même se ressembler? Et c'est là où la question de la robustesse intervient. Elles vont, ces cellules en croissance, ces tissus qui croissent, ces organes qui croissent, vont mobiliser les hétérogénéités cellulaires, hein, qui vont générer des conflits mécaniques. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça c'est très riche en informations. Et plus c'est riche en informations, et plus l'organe ou le sépale, le pétale, sait où il en est de sa croissance. Et donc il va pouvoir en robuster sa forme.
Et donc à partir de ces fleurs, vous êtes dit que ce concept de robustesse pouvait aller largement au-delà de cette question-là.
Oui, c'est ça. Alors, c'est avec l'aide des artistes, hein, quand même. Mais c'est vrai que oui. Ouais. Alors, ça m'est tombé dessus un peu aussi, parce que quand j'ai commencé à en parler, c'était avant le Covid. Et avant le Covid, bon, on m'écoutait poliment. Hein, vous voyez plutôt ça comme de la biologie amusante, quoi. Bon, après le Covid, le monde fluctuant, on l'a bien vu. Hein. C'était plus une illusion. Enfin, il était déjà là, à vrai dire, mais là, c'était matérialisé. Et après, ça ne s'est pas arrêté. Et donc, en fait, j'ai commencé à en parler à des personnes de différents secteurs, donc des artistes, mais aussi des entrepreneurs, des collectivités territoriales, etc. Et à chaque fois, ça répondait. Dans le sens où, en fait, j'ai presque fait passer un test de robustesse à ma robustesse.
Ah ouais. Et alors, ça fonctionnait ?
Et ça fonctionne à chaque fois. En fait, ça clique à chaque fois parce que c'est le monde futur en l'appel. Ouais.
Bon, vous nous direz comment vous avez fait justement pour tester votre propre robustesse, ça nous intéresse. Et puis, on verra comment s'applique cette loi au-delà du vivant, hein, à des systèmes politiques ou sociétaux, par exemple. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur cette question de la robustesse. Olivier Hamon, vous êtes notre invité pour cette émission de rentrée aujourd'hui sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Quand on voit l'évolution des performances ces 10 dernières années, qu'on a l'impression que pour battre un record olympique aujourd'hui ou pour gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques, on ne peut pas le faire si on n'est pas dopé. Et c'est ça qui est dramatique. Si on continue à laisser certains sportifs de haut niveau consacrer une partie de leurs émoluments au doping du riche, l'érythropoïétine, l'hormone de croissance, sont des produits qui, sur une année, coûtent entre 0,5 et 1 million de francs par an. Donc ça veut dire que, quelque part, s'il n'y a pas des partenaires pour aider à la quête de ces produits, certains n'y arriveraient pas. Alors, je dis que soit on met à bas l'hypocrisie qui règne actuellement dans ce monde-là, soit on décide que ce sport professionnel, après tout, c'est du show business.
Christian Bénézis, président de la Société française de médecine du sport en 1997, c'était un document envoyé spécial sur le dopage. On parle de la robustesse comme antidote au culte de la performance. C'est le thème de l'émission avec vous, Olivier Amand. Le sport de compétition par nature, hein, il est basé sur la performance, le dopage, la triche, le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que la compétition l'emporte sur le sport, hein.
C'est ça en fait le problème. À la limite qu'on puisse faire du sport de compétition, pourquoi pas, mais c'est la dose toujours qui fait le poison. Là, le sport de compétition part en roue libre. Hein. Enfin, le dopage, c'est un exemple, en effet, la finance aussi. Il y a une loi hein, pour ça qui le dit très bien, hein, c'est la loi de Goodhart qui dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. En fait, ça veut dire que quand on... Il y a un adage zen qui dit la même chose, hein, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. En fait, quand on fait du sport de compétition, on ne voit plus qu'un seul objectif à atteindre, hein, quitte à détruire tout le reste, y compris son corps. Hein.
Alors pourquoi vous dites que la robustesse est par essence l'inverse du culte de la performance ? Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, qui n'ont pas suivi les premières minutes de l'émission, pour redéfinir aussi ce que c'est que la performance et la robustesse surtout.
Bien sûr, alors la performance au départ c'est un beau mot, hein, c'est l'art de bien faire hein, au départ. C'est juste que le contrôleur de gestion est passé par là et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Mmh. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc ce qui est le bien faire, le bien est devenu le bien réglé. Ouais. Comme une machine, quoi, où en fait on doit atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Et la robustesse en face de ça, alors ça n'a rien à voir, la robustesse c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. En fait, c'est la réponse opérationnelle aux fluctuations.
Mais ça, on nous enseigne ça rarement, jamais, ou sauf quand on parle par exemple de la théorie de l'évolution, quand même, parce que ça nous rappelle quand même quelque chose de Darwin, tout cela, quand même, non ?
Ben oui, alors c'est ça qui est fou, c'est que Darwin, on l'a très mal lu.
Ouais.
Darwin, quand on lit son texte, alors Darwin, on dit souvent la sélection du plus adapté, sélection du plus fort, la compétition, etc. Alors qu'en fait, Darwin, quand on lit bien son texte, il y a de tout dedans. Hein. Il y a de la compétition, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de coopération. L'affiliation de l'homme, hein, son texte de 1871, il dit 70 fois le mot sympathie.
Ouais.
Il parle d'escargots qui sont en partenariat et qui s'entraident, etc. Enfin, c'est incroyable. Il y a plein d'histoires comme ça. Donc en fait, on l'a un peu raté, là, Darwin. Hein.
Ouais.
On a juste prélevé ce qui nous convenait dans la révolution industrielle.
Du hasard aussi, hein, évidemment.
Bien sûr, le hasard, voilà. L'hétérogénéité, il y a tout. Hein. D'ailleurs, j'ai un projet avec Odile Jacob sur le sujet, hein, pour plus tard par contre. Mais
pour faire quoi ?
Pour parler de Darwin, mais inverser, pour le remettre à l'endroit. Quoi.
C'est ça. Ouais. Parce qu'on a voulu l'interpréter, d'ailleurs ça a été évidemment interprété, utilisé à des fins très très malheureuses, hein, le génisme par exemple. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu encore aujourd'hui une mauvaise lecture de Darwin.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, on n'a pas assez écouté Jean-Claude Amezen alors,
oui,
sur cette antenne.
Bien sûr, ou Patrick Thor, qui en parle très bien de Darwin, et qui voilà, le réhabilite aussi. Donc en fait, il y a cette pensée-là qu'il faut réhabiliter. Et c'est pour ça que je parle d'un culte de la performance, parce que c'est un endoctrinement.
Ben, on vit de toute façon là-dedans complètement, enfin, je veux dire, et ceux qui nous gouvernent l'incarnent aussi d'une façon absolument flagrante quand même.
Oui, alors surtout au niveau national, supranational, je dirais qu'au niveau territorial, c'est beaucoup plus rafraîchissant.
Ouais. C'est-à-dire
les gouvernements, enfin disons les politiques plus territoriaux, en général, vivent dans le territoire avec les fluctuations, et en fait, ça ne marche pas, la performance, tout simplement. En fait, ça ne marche pas. C'est ça qui est rassurant, hein. C'est une forme de justice cosmique, c'est que quand on se canalise et que ça fluctue de plus en plus, ça casse.
Donc, ça nous laisse quelques espoirs quant à certains dirigeants du monde, par exemple, qui, évidemment, veulent tout écraser derrière eux.
Oui, bien sûr.
Vous pensez que c'est pas viable, en fait, que ça peut se casser la gueule, ça va se casser la gueule ?
Ah bien, ça va se casser la gueule, c'est sûr. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de question. C'est le champ du cygne. C'est-à-dire que c'est en train de se polariser comme jamais, là. Enfin, là, de 2026, là, en début d'année, là, on est carrément dans le... Enfin, c'est quand même, quand on voit Nicolas Maduro, c'est aussi un dictateur. Hein. Enfin, les deux, hein, c'est de la performance, hein, Trump, etc. Mais Trump, Poutine et compagnie, enfin, Netanyahou, puis voilà, le Hamas, pareil. Enfin, je veux dire, tout ça, là, c'est des aficionados de la performance, quoi, qui sont complètement drogués à cette drogue-là, mais ça ne marche que dans un monde stable et abondant en ressources. Alors, ça marche que pour les parasites. Un parasite dans un monde qui devient fluctuant avec des pénuries chroniques de ressources tombe. Et c'est surtout, faut pas oublier, c'est la fameuse phrase, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Faut pas oublier la forêt qui pousse.
Oui, mais on voit ce que Trump fait avec le pétrole du Venezuela, justement, c'est pour avoir ces ressources-là. Donc il va encore en avoir pour un petit moment quand même, non ?
Oui, bien sûr. Mais alors en face, il y a Xi Jinping qui va pas laisser faire, évidemment, hein, parce qu'il y a une question de pétrodollar et de yuan. Enfin, c'est très complexe comme question. Donc on est qu'au début d'une séquence qui est très... Bah, qui est terrifiante hein, d'un certain point de vue, mais qui est la fin d'un monde là. Enfin, c'est une forme, c'est assez paradoxal parce que c'est une récidive. On revoit la même histoire se répéter.
C'est le vieux monde hein, qui s'accroche voilà, en fait.
C'est exactement, c'est le vieux monde, mais c'est en effet c'est le vieux monde, c'est un monde zombie. Et Trump, c'est le défibrillateur.
Oui, mais sauf que le problème, c'est que ce monde-là, il fait beaucoup de dégâts quand même.
Oui, alors c'est ça qui m'inquiète.
Et qu'il a encore le temps de faire énormément de dégâts.
Exactement, ça je suis d'accord. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est mon inquiétude, mais ça devrait être l'inquiétude politique première. C'est celle-là. Hein. Enfin, le rôle du politique, hein, c'est d'éviter la guerre civile. C'est ça son premier rôle. Mmh. Bah là, on est plutôt parti dans la performance pour l'alimenter dans tous les sens du terme. Donc ça, oui, il y a de la casse actuellement, il va y en avoir encore plus, mais plutôt on déraille de ce culte de la performance. Et ça, en fait, il faut bien questionner le problème. C'est que c'est pas une question de pétrole, c'est pas une question de démocratie, c'est plus profond encore. C'est une question culturelle. Quel est notre rapport à la performance ?
Ouais. Mais pourquoi le pétrole, ça fonctionne pas alors les intentions de Donald Trump, là, de
oui,
s'accaparer justement ces milliards de barils ?
Oui, alors ça, à court terme, ça va marcher. Hein. Enfin, je veux dire, le pétrole, ça marche encore actuellement, mais on est en train de sortir du pétrole pour des tas de raisons. Mais on peut penser aux PFAS, on peut penser aux tempêtes qui vont augmenter en intensité, qui vont faire qu'une plateforme pétrolière, dans quelques dizaines d'années, ce sera beaucoup plus compliqué de la maintenir. Donc toutes ces infrastructures demandent la paix, une mondialisation qui roule comme sur des roulettes. Tout ça, ça n'existera plus. Hein. Quand on a démondialisé, on fait de la robustesse beaucoup plus territoriale, qui est beaucoup plus en paix, hein, au passage. C'est pas négatif.
Olivier Hamant, vous montrez que plus l'on tire sur un fil et plus on fait des nœuds ailleurs. Par exemple, on va prendre le canal de Suez qui assure 12% du commerce maritime mondial. Et pour en discuter ensemble, on va écouter l'extrait d'un documentaire d'Arte sur le fabuleux destin des inventions. C'était en 2014.
Port Saïd, dans le nord-est de l'Égypte. À 6h30, le premier convoi se forme à l'entrée du canal de Suez. Aujourd'hui, l'un des plus importants et des plus fréquentés au monde. Près de 15 000 navires parcourent chaque année les 160 km de voies maritimes dans le désert. Il y a 150 ans, un canal reliant directement l'Europe et l'Asie apparaissait comme un rêve fou.
Olivier Hamant, en quoi l'exemple du canal de Suez est-il emblématique de cette fragilité, justement, de la performance ?
Alors, j'aime bien utiliser le mot « canaliser », parce que la performance, c'est une force de canalisation, d'optimisation, d'addiction. En fait, avec le canal de Suez, on s'est habitué à un certain niveau de transport maritime pour des tas d'objets, des médicaments. Et donc, on a externaliser une partie de notre production, notamment à cause du canal de Suez. Donc 60% des principes actifs des médicaments qui sont fabriqués en Chine et en Inde, c'est un peu une conséquence du canal de Suez. Ben, quand le canal de Suez se bloque, voilà, d'un seul coup, on se rend compte qu'on est très très fragile.
Donc on est très dépendant. Hein, et quand on mise tout sur un seul aspect des choses, on prend d'énormes risques, en fait,
voilà,
c'est ça ?
Exactement. Ouais. Et c'est assez hallucinant qu'on ait fait des choix pareils, à vrai dire. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas construire le canal de Suez, mais si on le construit, il faut hétérogénéiser, quoi, diversifier. Mmh. Mais je pourrais parler de l'Allemagne qui a mis 40% de son gaz en Russie.
Enfin, sur la Russie,
ouais. C'est fou. Comment ça se fait que des dirigeants, soi-disant compétents, aient pu prendre des décisions pareilles ?
Donc la clé, c'est la diversité aussi. Hein.
Bien sûr, c'est clair.
C'est aussi quelque chose qu'on observe dans la nature, hein, la diversité se porte mieux que la monoculture, par exemple.
Hein. Alors, il y a une phrase, c'est la monoculture attire le pathogène.
Ouais.
Que ce soit pour une agriculture ou pour l'informatique. Hein, les cyberattaques attaquent les plus gros logiciels.
Donc, il faut diversifier.
Diversifier.
Ouais. Et les choses sont plus fiables, sont plus stables, sont plus solides.
Exactement. Bah, c'est par
sont
exemple.
Plus robustes.
Voilà, exactement. Si on prend la mobilité, par exemple, si j'ai accès à un vélo, à un bus, à un métro, et puis à un voisin qui peut m'amener, c'est plus robuste. J'ai une diversité de potentiel.
Quelle différence vous faites entre l'adaptation et l'adaptabilité, justement, Olivier Hamant ? Parce que ça, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup.
Oui. Alors, l'adaptation, c'est on a compris qu'il fallait changer. Donc ça, c'est plutôt positif.
Parce qu'on parle beaucoup d'adaptation avec le réchauffement climatique,
oui,
par exemple.
C'est là où c'est délicat. Mais déjà, juste l'adaptation, on a compris qu'il fallait changer. Mais souvent, quand on reste dans le culte de la performance, on va juste s'enferrer dans une autre voie étroite. Donc par exemple, on va remplacer toutes les voitures thermiques par que des voitures électriques. Ben, en fait, on n'a rien changé là. Il y a toujours autant d'autoroutes, c'est toujours la même culture de la performance finalement. C'est très marginal ce truc-là. Donc ça, c'est de l'adaptation. L'adaptabilité, c'est plutôt se placer dans les conditions où on va avoir une diversité de solutions. Donc ça veut dire qu'on va plutôt être en robustesse, moins optimisé, désoptimisé pour avoir plusieurs solutions.
Pourquoi la résilience qui est souvent mise en avant, hein, c'est très valorisé en général, vous semble insuffisante, vous ?
Alors, la résilience, c'est un mot compliqué, parce que la résilience, ça vient de résiliere en latin, qui veut dire rebondir. Au début, c'était l'écho, hein, au XVIIe siècle, le son qui rebondit. Et donc, c'est devenu, après un traumatisme écologique, social, psychologique, comment on rebondit ? Alors, en fait, la résilience, pour moi, ça ne marche pas, tout simplement, parce que ce qu'elle embarque avec elle, c'est la chute. Qui veut être résilient ? Vraiment, hein, qui veut se prendre un traumatisme et rebondir. Donc il y a ce côté négatif qui l'accompagne. Et
mais
aussi,
c'est pas un choix, ça.
Oui, alors ça nous tombe dessus, mais ce n'est pas opérationnel dans le sens où quand on rentre dans la polycrise, on ne va pas faire de la résilience à chaque fois qu'il y a une fluctuation. Parce que si c'est la polycrise, ben, actons le fait poly de la polycrise. S'il y a tout le temps des crises, on ne va pas faire de la résilience à chaque fois. On va plutôt ajuster notre niveau de robustesse au niveau des fluctuations. Et si on atteint le seuil de rupture, on n'a pas besoin de la résilience, on se transforme. Enfin, moi, j'ai besoin que de deux mots, robustesse et transformation. Mmh. La résilience, pour moi, c'est un mot hein, malheureux, hein, mais qui s'est fait hybrider par le culte de la performance pour penser, contrôler le traumatisme.
Vous avez déjà rencontré Boris Cyrulnik ou pas ?
Non, mais j'aimerais bien en parler avec lui.
Il faut faire un débat avec lui là-dessus.
Bien sûr. Parce que moi, à mon avis, Boris Cyrulnik parle de robustesse très souvent. En fait, quand il parle des attachements, c'est de la robustesse, c'est de la robustesse préalable.
Avec les liens.
Voilà, c'est les liens, c'est la diversité, ça c'est de la robustesse.
Développer les liens,
voilà.
Donc là-dessus vous êtes d'accord.
Voilà.
On va parler de sobriété justement, parce que c'est un autre concept que vous critiquez, Olivier Hamant, et puis on verra comment justement la robustesse pourrait devenir un sujet politique et social, et vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Quel genre d'homme ?
Un connard prétentieux. Comme la plupart des élèves ici, d'ailleurs.
C'est vrai, les gens ici sont un peu...
Coincés ?
C'est ça.
Système tendance circuit fermé, c'est la course à la performance ici. On a vite fait le tour.
Extrait du film Les Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz en 2000. Olivier Hamant pour parler avec nous de la robustesse antidote à la performance. C'est un tract qui est sorti chez Gallimard il y a quelques temps. Et puis l'année dernière, de l'incohérence philosophie politique de la robustesse, ça c'est chez Odile Jacob. Vous parlez d'ailleurs de la sobriété dans ce tract. C'est un concept que vous critiquez d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous dites que la sobriété peut être contre-productive si elle reste prisonnière de la performance?
Alors c'est ce qui se passe.
Parce qu'on a l'impression de s'en échapper justement.
Oui, oui. Alors, mais la sobriété, c'est un très beau mot, hein, qui est plutôt l'évitement normalement. Mais la sobriété, si on reste coincé dans le cul de la performance, oui, c'est de l'efficience énergétique. Et donc on va faire des avions sobres qui vont transporter de l'ultra fast fashion en avion cargo au BHV de Chine.
Ouais. Voilà. Donc avec des effets rebonds.
Avec effets rebonds à tous les sens, le surtourisme, etc. Quoi. Donc en fait, chaque fois qu'on fait de la sobriété et qu'on réduit ça à de l'efficience énergétique, quoi, c'est des effets rebonds qu'on voit.
Ouais. Mais alors vous jetez là aussi la sobriété avec l'eau du bain.
Pas du tout. Il faut la mettre à la bonne. En fait, il faut articuler. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment dans un moment culturel. Il faut vraiment se passer du temps sur les mots et puis après, il faut faire des phrases. C'est-à-dire que la sobriété, c'est un très bel objectif. C'est une mauvaise stratégie. C'est qu'en fait, si on commence par la sobriété sans questionner la performance, on va faire des effets rebonds. Donc, la sobriété, il faut la générer. Comment on crée les conditions qui génèrent de la sobriété? Par exemple, en faisant des objets réparables. Les objets réparables ne sont pas sobres à la fabrication, mais puisqu'ils durent et qu'on les transmet, ça génère de la sobriété.
Vous écrivez que la révolution à venir, elle est très ambitieuse, puisqu'elle va devoir embarquer tous les citoyens dans un monde contraire, c'est-à-dire basculer du toujours plus, c'est ce que nous vivons, hein, vers moins, mais mieux. C'est ça votre slogan à vous ?
Ouais, c'est ça. En fait, le mieux, c'est le mieux pluriel, finalement. C'est quand peut-être qu'on... Enfin, si on dit qu'on va avoir moins d'emails dans sa boîte mail, je pense que tout le monde va être content de ça, hein, quand même. Mais par contre, plus d'interactions dans le monde physique, plus de rencontres avec les humains, avec les non-humains, tout ça, ça c'est du moins mais mieux.
Et donc, de la robustesse avant la sobriété.
Oui,
ça exactement. Aussi. Hein.
Ouais, la robustesse génère la sobriété.
Ouais. Donner donc le primat à la robustesse. Est-ce que ça peut être un projet politique, Olivier Hamant ?
Bien sûr. Alors d'ailleurs, je connais plusieurs personnes pour les futures élections qui arrivent là, qui vont mettre la robustesse dans leur programme.
Ah bon ? Lesquelles ?
Alors, il y en a plusieurs. Je vais peut-être pas trop, j'aurais pas trop cité, mais plusieurs villes en tout cas qui sont
à droite comme à gauche ou plutôt à gauche ?
En fait, c'est assez étonnant, mais parce que là, on est dans un autre axe en fait. On est plutôt dans l'axe terrestre-extraterrestre. C'est que quand on a compris que le monde était fluctuant, évidemment qu'on fait de la robustesse. Si on veut faire de la robustesse, eh ben, il faut mettre un nouveau compromis avec la performance. Et donc, en fait, c'est assez transversal.
Oui, pourquoi vous parlez d'extraterrestre ? Je comprends pas bien.
Alors, c'est le petit clin d'œil à Bruno Latour. C'est-à-dire que quand on est extraterrestre, ça veut dire qu'on on est plus... Voilà, on est exactement pour atterrir.
Oui, il faut atterrir à nouveau. En quoi le culte de la performance l'a aussi contribué à la destruction des services publics ? Parce qu'il y a plein d'aspects hein, que vous abordez, évidemment. C'est pour voir comment ça peut se déployer aussi dans les sujets de société.
Alors, malheureusement, en France, on est bien placé parce qu'on a un Premier ministre qui, à peine arrivé, nous a parlé de l'État efficace. Donc à ce niveau-là, c'est de l'incontinence, de la performance. C'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Ça, c'est de la stratégie d'optimisation. Quand on fait de l'optimisation, encore une fois, on va réduire les services publics et donc ça va créer des problèmes. Et donc, il va falloir encore plus réduire les services publics. Enfin, c'est une boucle infernale. Donc ça, c'est les stratégies d'optimisation. On a vu ce que ça donnait en entreprise. Ça a fait dévisser Nike de 70%. Ça a fait dévisser Stellantis. On le sait que ça ne marche pas. C'est qu'on a vraiment plein d'exemples qui le montrent que ça ne marche pas. Et on en parle encore aujourd'hui. Ça, c'est ça qui m'éteint. Sébastien Lecornu, il a plein de qualités, évidemment, hein, mais s'il avait dit l'État robuste, c'est juste, je prends mon mot, hein, mais l'État robuste, ce n'est pas l'État efficace. C'est l'État où on diversifie, où on démultiplie, où on redonne de l'émancipation, enfin, on émancipe les territoires, hein, où on fait résonner tous ces projets qui sont territoriaux, qui sont là, en fait. Ils attendent qu'à se développer.
C'est un enjeu pour l'Europe, d'ailleurs, aussi aujourd'hui, face aux mastodontes américains, russes et chinois.
Bien sûr. C'est une question de souveraineté, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est la viabilité du territoire. Donc, c'est sa robustesse. En fait, c'est pour l'Europe, la Commission européenne notamment, il y a un dogme qu'il va falloir faire sauter, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est que la concurrence est faussée quand elle est libre. C'est ça qui se passe, en fait. C'est que dans un monde où on peut avoir des vêtements qui viennent, comme je disais, de Chine, au BHV, ou alors du Made in France, qui sera évidemment beaucoup plus cher, là, c'est faussé, parce que c'est libre.
Donc, la Startup Nation, tout ça, vous n'y croyez absolument pas ?
Alors, oui, ça, c'est...
C'est voué à l'échec ?
Oui, alors, qu'il y ait des petits projets innovants, mais bien sûr que ça fait partie de la robustesse, la diversité des projets, la diversité des projets, ça, c'est très robuste. Mais penser qu'on va avoir donc on va être hégémonique grâce à notre Startup Nation, ça c'est, ça c'est le logiciel des années 80.
Il y a des enjeux démocratiques aussi donc avec la robustesse.
Bien sûr.
Alors
en fait, la démocratie, c'est en fait, elle est construite sur la robustesse. C'est ça qui est dingue. Elle est vraiment au cœur. Si je prends le secret des sources pour les journalistes, c'est typiquement être moins performant pour être plus robuste et pour maintenir le métier de journaliste.
C'est-à-dire ?
Si on révèle toutes ces sources. Plus personne va nous parler. Et donc, il n'y a plus de journalistes. Et donc, il n'y a plus d'informations. Donc, si on a le secret des sources, c'est plus lent. Il faut faire confiance, il faut croiser les infos. C'est plus compliqué. Donc, c'est moins performant, mais donc, c'est plus robuste.
Et pour le peuple, alors ? Pour la démocratie
Et donc, alors, ça, c'est un ingrédient de démocratie. C'est quand même le quatrième contre-pouvoir. Donc, il est très important. Mais c'est le secret médical. Mais c'est aussi la participation citoyenne, les démarches participatives. Donc, ça se développe très fort, les conventions citoyennes dont je parlais. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça où, en fait, le premier kilomètre de la démocratie, c'est la participation citoyenne. Dans son territoire. Donc ça peut être de l'architecture participative, ça peut être l'EHPAD de Kersalik à Guingamp, tout ça c'est de la participation, et c'est de la démocratie locale.
Donc on pourrait transformer la société en travaillant mieux sur la robustesse et en faire quasiment un programme politique. En tout cas, certains travaillent sur la question.
Alors certains travaillent dans leur programme, mais il faut bien considérer que ce n'est pas un projet futur. On a déjà basculé dans la robustesse. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, et ça il faut peut-être insister là-dessus, c'est que ce n'est pas un projet pour 2050, la robustesse. En fait, le moment où on a basculé, c'est entre 2010 et 2020.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé plein de choses dans cette décennie. Donc, on a eu la crise financière en début et on a eu la crise Covid à la fin. Entre les deux, c'est là qu'on a créé toutes les fraises du climat, tout ça, donc beaucoup d'activisme. Ouais. Mais c'est le moment où tout est monté en échelle. L'agroécologie, le tout réparable, les repair cafés, tout ça, ça a vraiment explosé à ce moment-là. Et donc, on a changé de monde à peu près à ce moment-là. Juste que ça ne se voit pas.
Sauf que les autocraties aussi ont pris de l'ampleur.
Voilà, ça se polarise. Donc, en fait, on a les ultra-performants qui s'ultra-polarisent et on a le monde robuste qui vient. Alors, il faut bien comprendre que les ultra-performants sont en train de... En fait, ils sont dans les cordes, là. C'est pour ça qu'ils
sont... Mais ils vont gagner ou pas, à votre avis ?
Ah, ils peuvent pas gagner.
Ah bon ?
Thermodynamiquement, c'est pas possible. C'est pas viable. Avec les fluctuations qui viennent, le logiciel performant ne fonctionne pas.
Bon, mais là encore, ils ont le temps de gagner des élections et de faire des dégâts.
Bien sûr. À court terme, là, je peux pas dire.
Allez, on passe aux questions des auditrices et auditeurs. Avec ce message, pour commencer, de Victoria, qui ne peut s'empêcher, nous dit-elle, de penser aux différences de genre. Les hommes cherchent-ils plus la performance que les femmes ?
Alors, pour le, je vais essayer de ne pas trop essentialiser, mais pour vivre la robustesse, il faut vivre avec des fluctuations. Et donc, tout être humain qui vit avec des fluctuations aura une école de la robustesse dans son corps. Donc, on peut imaginer que le corps des femmes étant plus fluctuant, avec les règles, l'accouchement, la ménopause, tout ça, on peut considérer que c'est une école de la robustesse, le corps féminin, mais un homme qui va vivre des grosses fluctuations dans sa vie va aussi vivre la robustesse, donc voilà, sans trop essentialiser.
Léo nous dit, votre invité parle d'artiste avec qui il a collaboré, pourrait-il nous dire quel genre d'artiste ?
Alors c'était Beate Geisler et Oliver Sahn notamment, mais il y a plein d'autres, hein, Thierry Boutonnier à Lyon, etc. Enfin, il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai interagi.
Ouais.
C'est plutôt des artistes plasticiens, bon, Thierry fait plutôt de la sculpture sociale avec des plantes, enfin bon, il y a plein de choses, des musiciens aussi, hein, l'impro, tout ça. En fait, ce que je retrouve chez les artistes, la démarche artistique, finalement, c'est de questionner les questions, finalement. Faire passer un test de robustesse à nos questions. Voilà, c'est ça qui est très fort dans la démarche artistique.
Camille demande si ce concept peut être repris par n'importe quelle multinationale pour justifier précisément de produire plus.
Alors moi, ça me plairait très fort, ça, que les multinationales récupèrent le concept, parce que c'est un concept qui est un cheval de Troie.
Ouais.
Une fois qu'on a mis la robustesse dans sa raison d'être, là, les syndicats, les employés, les salariés, les managers vont pouvoir s'en emparer. Donc moi, ça me convient très bien qu'il soit récupéré, parce que la robustesse, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est si on met le mot, alors là, la culture change. On est obligé, enfin, ou alors ça veut dire que c'est vraiment que du greenwashing, ce qui est très possible, mais c'est le début d'une démarche.
Donc tester la robustesse.
Ouais, allez-y.
C'est une invitation. On va écouter le message vocal de Gilles.
Est-ce que ce concept de robustesse ne pourrait pas être utilisé par les climato-sceptiques en argumentant que la planète résistera ?
Alors, Olivier,
alors la planète va résister.
Elle s'en sortira toujours mieux que les.
C'est pas le sujet. Le conflit d'intérêts qu'on a, c'est qu'il est avec les humains, c'est qu'avec la société. Le maillon faible, c'est le maillon social. Le premier pic que l'on va passer, c'est pas le pic de pétrole, c'est pas le pic de lithium, c'est le pic humain. L'épidémie de burn-out des humains, c'est la manifestation parfaite de ce pic humain qu'on est en train de passer.
Louis-Marie nous dit « La spirale dynamique de Claire Grave décrit parfaitement le changement de culture que vous souhaitez pour sortir de la performance. Connaissez-vous ce modèle ?»
Oui, alors de loin, hein, je ne suis pas du tout un expert de la spirale dynamique. Ce qui me plaît bien dans la spirale, c'est le côté justement qui n'est pas circulaire. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est on évolue, hein, à chaque fois.
Ouais.
Et en effet, il y a plusieurs étapes dans la transformation. Et donc ça peut me parler. Parce que, alors, je n'ai pas assez travaillé le sujet pour vraiment trop dialoguer dessus, mais ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le côté pas très arborescent de la spirale. Voilà. Parfois, on a le droit de faire des allers-retours, de brancher, d'aller voir ailleurs, et en fait, c'est ce qui se passe dans la vie. Donc la spirale pourrait donner l'impression d'une trajectoire déjà préécrite, prédéterminée.
Jean-Marie, ancien mécanicien, j'utilisais souvent, dit-il, le terme rustique plutôt pour indiquer un système fiable moins dépendant des aléas.
Ouais, ça me va. Moi, rustique, c'est ce qu'on dit aussi pour les plantes. Hein. Les plantes rustiques, elles sont robustes. Hein. Alors, ce qui est la robustesse dans son sens, pourquoi j'utilise le mot robuste, c'est parce que c'est la définition physique, dynamique du terme.
Ouais.
Et ça marche pour des plantes comme pour des machines, pour des systèmes.
Merci beaucoup, Olivier Hamant, en tout cas,
merci
de nous avoir fait connaître ce concept de robustesse. Je renvoie sur deux ouvrages, au moins, il y en a d'autres. Hein. Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, c'est chez Gallimard. Et puis de l'incohérence, philosophie politique de la robustesse, vous l'avez publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission de rentrée avec nous. Merci à Lucille Jour de Moalic qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Julien Dumont qui était avec nous à la technique. Lucie Sarfati pour la coordination et la programmation de l'émission. Et Jérôme Boulet qui réalisait cette Terre au carré.